On va parler de la côte méditerranéenne. Et avec l'été, peut-être rien qu'en parlant de ces îles, parlant de ces côtes, ces belles côtes, ça évoque tout de suite chez nous peut-être les vacances qui approchent. Pour de telles destinations, on pense déjà à prendre son kit de plage, son petit maillot de bain, sa serviette, les jeux pour les enfants, son appareil photo pour prendre quelques souvenirs. Eh bien, vous avez de la chance parce que ce matin, justement, on va parler de ces contrées, de ces jolies contrées, de ces jolis pays qui bordent la Méditerranée. Mais par contre, on va aller à une époque où les stations balnéaires, les plages avec maillot de bain et serviettes n'existaient pas encore. On va parler de quelqu'un qui est passé dans ces contrées, mais pas pour du tourisme, mais plutôt qui a vécu des difficultés, qui a vécu des choses compliquées, mais aussi beaucoup de joie dans le Seigneur. Et on va parler ce matin d'une des œuvres d'évangélisation les plus incroyables qui ait jamais eu lieu. On continue donc aujourd'hui notre série de quatre prédications, Timothée, si tu veux, sur l'apôtre Paul, que nous avons intitulé En chemin avec Paul, parce qu'on chemine avec lui. Après avoir vu donc dimanche passé sa conversion sur le chemin de Damas avec Raphaël, ce matin, on va faire un bond en avant dans le temps de 10 années à peu près. On va se retrouver en l'an 48 après Jésus-Christ, c'est-à-dire donc une dizaine d'années après sa conversion. Entre-temps, Paul a passé 3 ans dans le désert, en Arabie, 3 à 4 ans chez lui à Tarse, et encore 4 ans au service dans une église, l'église d'Antioche, dont on va parler un petit peu ce matin. Paul est maintenant prêt à être lancé dans l'œuvre de sa vie, apporter le message de l'évangile aux nations. Et je vous propose, comme je l'ai dit par mail, quelques-uns qui sont dans la Google List, on va lire ensemble, ou on va, par parcimonie, on va dire, on va lire les chapitres 13 et 14 du livre des Actes. Et je vous propose donc de commencer par le début de ce premier voyage missionnaire, chapitre 13, verset 1. Et tout au long de notre petit itinéraire, pour bien se placer et savoir où on en est, on va un peu suivre Paul dans son cheminement et dans ce premier voyage missionnaire. Donc, acte 13, verset 1. Donc, Paul se situe à Antioche pour le moment, juste au-dessus, au nord d'Israël, dans la Syrie actuelle. Il y avait alors, dans l'église d'Antioche, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: Mettez à part pour moi Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On prendra la suite après. Donc, suite à la demande de Barnabas, en acte 11, on voit ça, Saul l'a suivi dans l'église d'Antioche. Antioche de Syrie, la troisième ville la plus grande de l'Empire romain à l'époque, une ville cosmopolite, une grande ville. Une ville où on retrouvait à la fois des Grecs, des Juifs et beaucoup de craignants Dieu, c'est-à-dire des païens qui s'étaient convertis au judaïsme, ou attirés en tout cas par le judaïsme. C'est d'ailleurs dans cette ville que plusieurs choses se sont passées en particulier. C'est dans cette ville que la première église mélangeant des Juifs et des païens s'est constituée. C'est dans cette ville que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, qui signifie petit Christ. À l'époque, c'était surtout une moquerie. Quand on appelait quelqu'un de chrétien, c'était une moquerie. Et pendant près de 4 ans, donc, Saul, avec Barnabas et d'autres personnes, on en voit 3 là, autres avec lui, ont travaillé au sein de cette église. Ce groupe de 5 hommes, appelés prophètes et enseignants, même s'ils ne sont pas appelés anciens en tant que tels, étaient sans doute le groupe de responsables de l'église d'Antioche. 5 hommes. On voit déjà que dès le départ, dès le début de la vie d'église, c'est le travail d'équipe qui était privilégié pour conduire une église, comme on peut l'avoir encore aujourd'hui, 2000 ans après, parmi nous. Un beau jour, donc, au milieu d'un temps de prière, le Saint-Esprit parle à ce groupe d'hommes et leur indique que le moment est venu pour Saul et Barnabas de les quitter et de partir en mission à l'étranger. Il est important juste de faire 2 remarques par rapport à cet appel missionnaire. D'abord, cet appel est inspiré par le Saint-Esprit, vous l'avez lu. C'est Dieu qui lance l'appel et conduit à son service. Personne d'autre. C'est Dieu qui lance l'appel. Et aussi notre réflexion qui est importante, c'est que cet appel est confirmé par l'Église. La mission ne relève pas d'initiative personnelle. Je veux partir, simplement moi, individu. Elle émane aussi de l'Église locale où Barnabas et Saul servent, travaillent de concert. Et on le voit bien à travers l'imposition des mains qui est faite envers Saul et Barnabas. Cette imposition des mains symbolise quelque part l'engagement spirituel de l'Église à leur côté, avec eux. Ce n'est pas simplement Saul et Barnabas qui partent, c'est l'Église qui part avec eux, même si physiquement, bien entendu, uniquement Saul et Barnabas partent. Mais à travers cette imposition des mains, c'est vraiment cette idée de la bénédiction de l'Église, c'est vraiment cette idée de l'approbation de l'Église et de la conduite de l'Église aussi, à travers eux. On a parfois l'idée que Paul est parti très 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 vite après sa conversion, pour ses voyages, ses différents voyages missionnaires. Et c'est une erreur. Parce qu'en fait, comme je vous le disais en introduction, c'est simplement 10 ans, c'est plus de 10 ans après sa conversion que Paul est parti pour son premier voyage missionnaire. 10 ans. 10 ans avant que Paul parte pour ses voyages pour annoncer l'évangile dans des contrées où on ne connaissait pas Dieu, où Dieu était inconnu. 10 ans. 10 ans, ça peut paraître long. Pourquoi un tel temps d'attente dans la vie de Paul? Pourquoi Paul n'est pas parti immédiatement dans ces pays qui ne connaissaient pas Christ? Je crois qu'il y a 2 raisons, d'après ce qu'on peut voir dans la parole. Il me semble d'abord que Paul avait besoin de connaître intimement et personnellement Dieu. Paul connaissait beaucoup de choses sur Dieu. On l'a vu la dernière fois avec Raphaël, c'est quelqu'un qui avait une grande connaissance de Dieu. C'est un pharisien, quelqu'un qui avait été éduqué par Gamaliel. Quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances de la parole. Mais sur le chemin de Damas, Paul s'est rendu compte qu'en fait, il ne connaissait pas Dieu, qu'il ne se connaissait pas Christ. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu et ne pas connaître Dieu. On se contente de connaissances intellectuelles et on ne connaît pas une relation d'intimité avec lui, avec Dieu. Et seul en Arabie, puis à Tarse, je crois que ce sont des moments où Dieu a pu se révéler entièrement à Saul. Ce sont des moments où Saul a pu créer une intimité, une relation forte avec son Dieu, réelle. Et c'est aussi un temps, pendant ce temps en Arabie, à Tarse, où Saul a pu quelque part être formé par Dieu, dans un temps caché, dans un temps seul à seul avec Dieu. Un temps de l'ombre, on pourrait dire aussi. Avant de devenir cet apôtre, cette figure visible de tous, Paul a passé ce temps dans l'ombre, seul à seul avec Dieu. Et je crois que ce temps de l'ombre, on le retrouve un peu souvent, très souvent même, dans les différentes histoires des personnages bibliques qu'on peut voir. Moïse, pendant 40 ans dans le désert. On peut penser à David, berger, jeune berger. Daniel et ses amis, au tout début, dans la cour, à Babylone. Tous ces hommes ont vécu, et ces femmes aussi de la Bible, ont vécu un temps, quelque part, de l'ombre où ils ont appris à connaître Dieu, où ils ont appris à avoir une relation intime avec lui, avant de pouvoir révéler leur don, l'appel missionnaire ou l'appel que Dieu leur offrait. Et je crois que ce temps de l'ombre, quelque part, est aussi une réalité aujourd'hui, dans nos vies. Il est plus ou moins long, mais c'est quelque part une certaine norme, une norme où Dieu, pendant un temps, établit sa relation avec nous, un temps de l'ombre où on ne voit pas forcément la personne avec des dons, des caractéristiques ou un appel particulier, mais où Dieu se révèle progressivement à toi, à moi, où tu grandis dans ton intimité avec lui avant de pouvoir révéler tes dons, avant de pouvoir révéler tes capacités à tous. C'est une norme, d'une certaine manière. Et Paul avait eu besoin, comme chacun d'entre nous, de ce temps d'intimité, de l'ombre avec Dieu seul à seul pour que Dieu puisse travailler son caractère afin qu'il puisse être l'apôtre qu'il a été par la suite. Une deuxième raison, il me semble, pour ces 10 ans d'attente pour Paul avant de partir, c'est que Paul avait besoin, je crois, de vivre véritablement l'Église, la vie d'Église. Et c'est ce qu'il a fait pendant 4 ans à Antioche. Il est resté 4 ans dans la ville d'Antioche, vivant dans une vie d'Église standard au sein de cette Église donc, d'Antioche. Il a vécu la vie d'Église au milieu d'autres chrétiens, avec les bons et les mauvais moments, avec les périodes très fastes et les moments plus tranquilles, sans rien de particulier. Et je crois personnellement que l'Église est vraiment le meilleur lieu de formation pour nous. Parce que c'est dans l'Église qu'on peut se former son caractère, en se frottant les uns aux autres, en se soumettant les uns aux autres. C'est dans l'Église qu'on peut tester ses capacités à travers les différents champs d'action de l'Église. On peut voir nos possibles dons dans les différentes activités de l'Église. Et c'est aussi dans l'Église qu'on peut travailler son endurance. Et dans un appel missionnaire ou dans quelque appel que ce soit, il y a une endurance aussi dans le long terme. Et dans l'Église, on travaille son endurance à travers les difficultés, mais aussi à travers le train-train quotidien, les périodes plus tranquilles. Il y a aussi une endurance à long terme à apprendre. Paul avait donc besoin de connaître personnellement son Dieu et de connaître aussi la vie d'Église avant de pouvoir répondre à cet appel de Dieu pour lui à la mission. Une fois cette intimité avec Dieu acquise, une fois cette vie d'Église comprise, Saul, avec Barnabas, a pu être utilisé par Dieu et prendre en charge ce ministère unique d'apôtre au sein des nations païennes. Saul, par la suite, et Barnabas se rendent au port de Séleucie, à quelques kilomètres d'Antioche, et font voile pour Chypre, leur première destination. Ils sont accompagnés d'un troisième jeune homme, Jean-Marc, dont on parlera par la suite. Jean-Marc, qui est donc le cousin de Barnabas, et aussi, pour la petite histoire, l'auteur de l'évangile de Marc, un peu plus tard dans sa vie. Si on poursuit notre lecture dans Acte 13, on va voir une petite carte de nouveau pour poursuivre le cheminement avec Paul. On va reprendre au verset 5, acte 13, verset 5. « Une fois arrivés à Salamine, donc en Chypre, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul, ou du gouverneur, Sergius Paulus, un homme intelligent. » Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. Il chercha à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli de Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. « Charlatan plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits ? Maintenant, attention !» La main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d'Élimas s'obscurcirent. Il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut, car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Donc les trois compagnons, Saul, Barnabas, Jean-Marc, décident donc pour ce premier voyage missionnaire de commencer par Chypre. Pourquoi Chypre ? Je pense que la décision a été mûrement réfléchie, était une décision sage. Pourquoi Chypre ? Pour deux raisons peut-être. D'abord parce que Barnabas était originaire de cette île. Donc, en cas de coup dur, en cas de besoin, il pouvait sans doute faire appel à plusieurs membres de sa famille ou plusieurs amis sur l'île de Chypre comme aide, comme soutien. Donc c'était une bonne chose de partir d'abord sur cette île où Barnabas pouvait connaître un peu de monde avant de partir dans la Turquie, l'Asie mineure, où c'était l'inconnu. Ils ont eu besoin d'un temps d'adaptation. Deuxième chose, beaucoup de Juifs à cette époque habitaient l'île de Chypre, ce qui donnait à nos trois compagnons un champ prolifique d'action immédiat. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font tout de suite. Arrivés à Salamine, il est dit au verset 5, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Rapidement, ça va être leur moyen, leur premier moyen, premier outil pour annoncer la parole de Dieu, c'est de tourner dans les synagogues. Parce qu'à l'époque, dans ces synagogues, on invitait facilement quelqu'un à parler. Chaque personne qui arrivait dans la synagogue avait le droit de parler, en tirant sa parole d'un texte de la Bible. Et donc Saul, avec Barnabas et toute son équipe, par la suite aussi, vont souvent utiliser ce moyen-là pour annoncer la parole, en prenant tout simplement la parole dans le cadre d'une synagogue. Et c'est ce qu'ils vont faire justement à Salamine, dès le départ. Étrangement, si vous regardez au verset 5, rien n'est dit sur le résultat de la prédication de l'évangile à Salamine. Il n'y a pas de chiffres, il ne semble pas y avoir de fruits. Fruits ou pas fruits, on ne sait pas. Je vous suggère pour ma part que peut-être Saul et Barnabas ont vécu un échec à Salamine. Peut-être qu'à Salamine, Saul et Barnabas ont parlé de l'évangile, mais que personne n'a répondu au message de la bonne nouvelle. Peut-être que les débuts pour ce premier voyage missionnaire ont été compliqués, difficiles pour Saul et Barnabas. Mais cela ne leur a pas fait abandonner leur appel. Ils ont poursuivi, ils sont allés jusqu'à Paphos. Et quelque part, je crois que la persévérance de Saul et Barnabas doit être un encouragement pour nous. Il peut arriver de parler de l'évangile, de témoigner de sa foi et de ne voir aucun fruit. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Ou j'espère en tout cas peut-être. Comment réagit-on dans ces périodes de vaches maigres ? On a l'impression qu'il n'y a pas de fruits. On a l'impression que notre service même, dans l'Église ou auprès des uns et des autres, ne porte rien. Comment réagit-on dans ces moments-là ? Une histoire par rapport à ces temps de vaches maigres, on peut dire, ces temps où on a l'impression qu'il n'y a aucun fruit, une histoire que j'ai lue il y a quelque temps déjà, m'a beaucoup aidé et m'a frappé. C'est l'histoire d'un certain monsieur Génor, un chrétien australien. Cet homme, pendant 40 ans, a distribué des tracts dans une ville, dans la ville de Sydney, dans une rue très passante. 40 ans à distribuer des tracts. Au bout de 40 ans, zéro fruit. Visible. Il n'avait vu aucun fruit. À 2 semaines de son décès, un pasteur londonien qui passait par là, qui était quelqu'un qui voyageait beaucoup de par son ministère, qui était venu sur Sydney pour traiter sans doute une étude biblique ou je ne sais quoi, est venu le rencontrer cet homme pour lui dire qu'à travers tous ces voyages qu'il avait pu faire à travers le monde, il avait entendu plein de récits, de témoignages de personnes qui s'étaient converties suite à être passées dans cette ville de Sydney et avoir un petit bonhomme qui lui avait donné un tract. Des dizaines et dizaines de témoignages pour cet homme. Et quelque part, cet homme montre cet homme qui a pendant 40 ans à donner ses tracts, est une preuve de persévérance, un encouragement à la persévérance pour nous, je crois. En tout cas, il était pour moi. Saul et Barnabas nous laissent le même exemple, ce même exemple de persévérance malgré tout, même si peut-être les fruits ne sont pas voyants au départ. Ils nous démontrent que le plus important n'est pas forcément le fruit de notre service ou de notre témoignage, mais l'attitude, une attitude entre autres marquée par la persévérance, comme ces deux hommes. Saul et Barnabas ont donc ensuite traversé toute l'île pour se retrouver à Paphos. Paphos, c'est la capitale administrative où siégeait donc le gouverneur. Gouverneur qui s'appelle Sergius Paulus, d'après notre texte. Dans cette ville, donc, ils font connaissance avec cet homme qui a l'air intéressé par l'évangile. Et ils font aussi connaissance avec un de ses conseillers, sans doute, un dénommé Elimas. Luc fait le portrait de cet homme en 3 mots. C'est un magicien, un faux prophète et c'est un juif. Un drôle de mélange, un peu de tout. Mais cet homme se met surtout en travers du chemin de foi de Sergius Paulus. Il y a une sorte de compétition qui commence à s'engager entre Elimas d'un côté et les apôtres. Une compétition qui rappelle un peu Moïse face aux 2 magiciens du pharaon d'Égypte. Et Sergius Paulus, cet homme, est en fait confronté à un choix. Choisir entre la séduction de la magie à travers Elimas, ou choisir la force de la parole présentée par Paul et Barnabas. Conscient que Sergius Paulus, recherchait honnêtement la vérité, recherchait honnêtement l'évangile, et que ce magicien essayait de l'en contraindre, de l'en empêcher, Saul est intervenu, et avec l'aide de Dieu, Dieu l'a rendu aveugle. Parce qu'il avait essayé de maintenir le gouverneur dans un aveuglement spirituel, Elimas devient aveugle physiquement. Il est puni d'aveuglement lui-même. Et devant ce fait, surtout l'enseignement de Saul et Barnabas, cet homme, ce gouverneur, se convertit. Et à travers cette histoire, on remarque aussi et on constate que l'opposition, loin de faire obstacle à l'évangile, le fait au contraire triompher. C'est ce cas en tout cas dans cette histoire-là. Et à cette occasion, il est à noter une dernière chose, c'est que Saul change son nom pour prendre celui de Paul, qui va le poursuivre tout le reste de son parcours, de son cheminement. Une manière de souligner aussi que l'évangile passe du milieu juif au milieu païen, parce que Sergius Paulus était un Romain, un païen, et peut-être aussi une référence au possible premier converti de ces voyages missionnaires que Paul a pu faire par la suite. On poursuit au verset 13, chapitre 13, verset 13, toujours avec cette petite carte. Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Perge, en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils quittèrent Perge et continuèrent leur route jusqu'à Antioche en Pisidie. Là, ils se rendirent à la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Et on ne va pas lire la suite, je vais juste vous résumer. Donc Paul et Barnabas vont se retrouver dans une synagogue et vont pouvoir, on va les inviter à parler. Ils vont, en parlant un peu de l'histoire d'Israël, du cheminement de l'Israël, ils vont relever la naissance de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et au verset 32 et 33, il est dit, Paul qui parle et qui dit, « Et nous sommes venus nous vous annoncer cette bonne nouvelle. Ce que Dieu avait promis à nos ancêtres, il l'a pleinement accompli pour nous, qui sommes leurs descendants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. » Donc Paul annonce l'évangile en partant à la base de l'histoire d'Israël. Plus loin, au verset 42, à la sortie, donc après que Paul ait pu exprimer, parler de la bonne nouvelle de l'évangile, à la sortie, on leur demanda de reparler du même sujet le sabbat suivant. Et quand l'assemblée se fut dispersée, beaucoup de juifs et de païens convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci s'entretenaient avec eux et les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole du Seigneur. En voyant tant de monde, les juifs furent remplis de jalousie et se mirent à contredire Paul et à l'injurier. Au verset 48, quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, entendirent parler donc Paul et Barnabas, ils furent remplis de joie et ils se mirent à louer Dieu pour sa parole et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans toute la contrée avoisinante, mais les juifs excitèrent les femmes dévotes de la haute société qui s'étaient attachées au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent ainsi une persécution contre Paul et Barnabas et les expulsèrent de leur territoire. Paul, Barnabas et Jean-Marc quittent l'île de Chypre pour se retrouver à Perge. Et c'est là qu'a lieu un coup de théâtre dans l'équipe missionnaire. Jean-Marc les abandonne, les lâche. Pourquoi ? La Bible ne nous dit pas exactement quelle est la raison pour laquelle Jean-Marc les a abandonnés. On peut faire des suppositions, des hypothèses. Peut-être que Jean-Marc était trop jeune, on sait qu'il était plus jeune que Saul et Barnabas. Trop inexpérimenté du coup. Peut-être que la pression de ce voyage était trop forte pour lui. En tout cas, cela nous montre, comme je vous disais en introduction, que Paul et Barnabas n'étaient pas en tourisme. C'était des conditions compliquées, des conditions difficiles. Et Paul en parle dans 2 Corinthiens 12 en particulier. La leçon qu'on peut peut-être sortir de cet abandon de Jean-Marc, c'est qu'il faut savoir faire preuve de sagesse pour discerner clairement ses capacités et ses forces. Je crois que nous devons être courageux dans le service pour Dieu. Nous devons prendre des risques pour lui. C'est un peu un des thèmes qu'on a développé lors d'une dernière prédication sur Rahab. Mais il ne s'agit pas non plus d'être déraisonnable. Il ne s'agit pas non plus d'aller trop loin dans notre cheminement avec Dieu quand on n'est pas prêt à prendre ses responsabilités particulières ou ses risques particuliers, selon ce qu'on est ou on en est aujourd'hui. Il existe, je crois, la parole nous le montre aussi, des étapes dans la progression d'un ministère. Par exemple, dans notre église, c'est juste un exemple et ça concerne que le ministère de la parole, on peut dire, une des premières étapes qu'on regarde, c'est la prière publique dans l'église. Après, on sollicite peut-être la personne pour introduire une scène. On peut ensuite solliciter la personne pour présider ou pour animer une étude biblique. Et ensuite, voir si elle est prête pour prêcher. Il n'y a pas forcément une obligation de suivre ces étapes-là. Mais il y a une certaine étape, des étapes à suivre. Et je pense que quel que soit le service pour lequel on est appelé, quel que soit le ministère, l'œuvre pour laquelle on est appelé, Dieu ne nous demande pas du jour au lendemain, je suis jeune converti de 15 ans, demain tu vas t'occuper d'une église. Non, Dieu a un cheminement avec nous, il a des étapes à nous faire suivre aussi. Peut-être que Jean-Marc a oublié ces étapes. Et le risque aussi dans nos vies chrétiennes, c'est peut-être de sauter des étapes. Ce n'est pas forcément mauvais, mais on peut avoir des conséquences difficiles. Et il y a eu des conséquences dans cette équipe missionnaire de 3 personnes. Sans doute que cet abandon a mis mal à l'aise, a mis à mal à l'équipe. Et peut-être que le premier déçu dans cette équipe, ça a été Jean-Marc, de voir qu'il n'était pas capable de suivre ce rythme ou cette pression. Mais ce départ a sans doute affecté Paul et Barnabas, mais cela, encore une fois, ne les a pas empêchés de poursuivre. Toujours cette même persévérance. Même si l'un des leurs est parti, ils poursuivent leur cheminement. Ils ont poursuivi donc et sont arrivés à Antioche, à 160 km au nord de là. Il ne faut pas confondre cette Antioche, et vous l'avez vu sur la carte, avec l'Antioche, le point de départ. En fait, il y avait 15 Antioches dans tout l'Empire romain à cette époque-là. Et donc là, on est vraiment au centre montagneux de la Turquie, une région qui est moins hospitalière que les précédentes. Paul et Barnabas arrivent aussi à une région où il y a sans doute moins de juifs, moins de synagogues, une région où c'est plutôt des cultes idolâtres qui règnent. Et on va voir par la suite que leur message va un peu être modifié, va un peu changer, leur parole. Il va leur falloir en tout cas du courage pour poursuivre leur cheminement. En tout cas, à Antioche, il y a quand même quelques juifs, suffisamment pour qu'une synagogue soit mise en place. Il fallait 10 hommes juifs pour qu'une synagogue puisse exister. Et selon leur habitude, donc Paul et Barnabas se rejoignent à la synagogue et après avoir été invités, Paul peut parler de l'évangile. Et face à cet auditoire mixte, composé à la fois de juifs et de païens convertis au judaïsme, Paul est placé en fait devant deux choses, devant une chance. Une chance pourquoi ? Parce qu'il peut s'exprimer en se basant sur la parole, parce qu'il parle à des hommes et des femmes qui ont une connaissance intrinsèque de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Et donc il va parler de l'esclavage égyptien, si vous regardez. Il va parler des juges, il va parler de l'Exode auparavant. Il va parler de la royauté de David pour enfin déboucher sur Jésus-Christ, fils de David. Et c'est une chance aussi pour lui parce que l'Évangile ne s'adresse pas qu'à une seule catégorie de personnes. Il s'adresse aux juifs et aux païens. Mais il est aussi placé devant une situation explosive parce qu'il faut se remettre en place dans le contexte. Un siècle après... quelques années après la mort de Jésus, présenter le besoin de salut à la fois pour les juifs et les païens, ça signifie quoi ? C'est-à-dire qu'on met tout le monde au même niveau. Juifs et païens, il n'y a aucune différence. Et ça pouvait être mal pris. Et ça va être mal pris par la suite, par les juifs. C'est quelque chose qu'ils n'étaient pas habitués. Pour eux, ils étaient encore le peuple précieux et unique de Dieu. Ce discours est ce qui va suivre le moment central de ce premier voyage. Car c'est à ce moment-là qu'un réel changement se fait dans la stratégie missionnaire de Paul et Saul. Sans abandonner les Juifs, ils vont prendre le parti de poursuivre avec les païens, d'annoncer l'évangile envers ceux qui sont intéressés. Et ce seront les païens d'abord qui seront intéressés le plus. Par le biais d'un petit résumé historique, donc Paul va amener ceux à qui il s'adresse à reconnaître que dans le parcours d'Israël, il y a deux grands thèmes en particulier. Ces deux grands thèmes, c'est la rébellion et la grâce. Et Paul rétablit la vérité, Israël est un peuple rebelle et ne mérite rien, à part le jugement de Dieu. Mais Dieu fait grâce au peuple d'Israël. Il va rebondir là-dessus en expliquant que Jésus, c'est pareil, Jésus est venu, Christ est venu pour un peuple rebelle. Et nous sommes tous, qui composons cette assemblée ce matin, des rebelles par nature, des rebelles à Dieu en tout cas. Mais Dieu fait grâce, quelque chose qu'on a déjà entendu dans la présentation de la scène, Dieu fait grâce aussi. Suite au message de Paul dans la synagogue, 3 réactions différentes. D'abord, une curiosité quasi générale. Beaucoup de monde a été intéressé par ce qu'a dit Paul. Ils veulent en savoir plus. Ils lui demandent de revenir la semaine d'après, le samedi suivant. Et cette curiosité est une bonne chose. Elle montre un réel intérêt pour ce que Paul a dit. Et aujourd'hui, pour nous aussi, c'est vrai. Il vaut mieux avoir des gens autour de nous qui sont intéressés, qui sont curieux de l'Évangile, plutôt qu'indifférents. C'est une joie quand on a des personnes qui sont curieuses. Mais il faut faire attention parce que être curieux, s'intéresser aux choses, ça ne veut pas dire non plus être sauvé. Et on va voir parmi ces curieux, il y en a qui ne sont pas sauvés. Parce que parmi ces curieux, il y a aussi des juifs. Et ces juifs, leur curiosité, finalement, elle va tomber sur quoi ? Sur une jalousie maladive. En voyant le succès populaire de l'apôtre, toute la ville est venue. Alors, je ne sais pas combien il y avait de personnes en Antioche de Syrie, mais ça ne devait pas être une petite ville non plus. Imaginez-vous, toute la ville est venue écouter Paul. La jalousie pour les Juifs, qui devait peut-être être quelques dizaines. Et on voit que le passage de la religion juive pour ces hommes, à la foi, n'est pas aisé, est difficile. Et quelqu'un a dit, venir à Jésus ne signifie pas de changer de système. C'est abandonner le système, tous les systèmes, pour vivre une relation avec Dieu. Venir à Jésus, ce n'est pas changer de système religieux, ce n'est pas changer de religion. C'est abandonner le système, c'est-à-dire abandonner ce qui fait la religion pour avoir une relation, établir une relation avec Dieu personnelle. Ces Juifs étaient curieux d'en savoir plus, mais ils n'étaient pas prêts à changer leur manière de fonctionner, à changer leur état d'esprit. Ils n'étaient pas prêts à aller plus loin. Et au lieu de changer eux-mêmes, c'est la haine qui habitait leur cœur, la jalousie, la haine. Et cette opposition va se muer jusqu'à la persécution. Ils vont faire en sorte que Paul et Barnabas quittent par tous les moyens cette ville d'Antioche. Mais à côté de ça, on voit aussi la réaction d'une joie salvatrice au verset 48. Ces païens avaient peut-être appris beaucoup de choses à la synagogue, beaucoup de connaissances aussi encore. Mais le discours de Paul les amène plus loin avec Dieu. Plus qu'un simple intérêt intellectuel, ils découvrent la grâce et la joie qu'apporte le salut pour ces hommes. Paul et Barnabas vont poursuivre leur cheminement après avoir été rejetés d'Antioche et se retrouvent à Iconium, à une trentaine de bornes de là. Au verset 4 du chapitre 14, donc à Iconium, la population de la ville se partagea en deux camps. Les uns prenaient parti pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, s'apprêtaient à maltraiter les apôtres et à les tuer à coups de pierre. Mais ceux-ci, dès qu'ils en furent informés, cherchèrent refuge dans les villes de Lycaonie, Lystre, Derbe et les environs. Donc toujours la même chose, toujours le même plan. Paul et Barnabas se rejoignent à une autre petite synagogue où ils annoncent l'évangile, où ils annoncent la parole de Dieu, la bonne nouvelle, pour entrer rapidement en contact avec des personnes juives ou non-juives qui pourraient être intéressées par l'évangile et la vérité. Et ce message, comme à Antioche, est un grand succès, tout en suscitant une forte opposition. Et on voit deux convictions. Les uns sont pour les juifs, toute la ville. Les uns pour les juifs, les autres pour les apôtres, pour Paul et Barnabas. Un peu la même histoire qu'auparavant à Antioche. Et la même conclusion, d'une certaine manière, la persécution, mais une persécution qui monte encore d'un cran. Après avoir été expulsé d'Antioche, là, les hommes d'Iconium, les juifs d'Iconium, voulaient lapider Paul. Mais heureusement, il va pouvoir partir rapidement. On poursuit encore la suite avec Lystre et Derbe, au verset 8 du chapitre 14. À Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui commanda d'une voix forte « Lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. » D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Jusqu'au verset 12. « Quand ils virent ce que Paul avait fait, les nombreux assistants crièrent dans leur langue le lycaonien « Les dieux ont pris forme humaine et sont descendus parmi nous. » Ils appelèrent Barnabas Zeus et Paul Hermès parce qu'il était le porte-parole. Au verset 15, c'est Paul qui parle en réaction à cette mauvaise interprétation des choses. Paul dit « Amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi semblables à vous. Nous sommes venus vous apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu, qui vous appelle à abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Et verset 19, « Des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium. Ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ils lancèrent des pierres contre Paul pour le tuer, puis le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais quand les disciples se rassemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe. » Paul et Barnabas se réfugient donc à Lystre, une colonie romaine donc située à une trentaine de kilomètres d'Iconium. Et là, il se rend compte, il est dans une situation très différente. Il n'y a pas de synagogue. Il n'y a pas de connaissance de Dieu, mais un paganisme, une idolâtrie régnant dans toute cette ville-là. Donc pas de moyen, comme auparavant, de se joindre à une synagogue pour parler de la bonne nouvelle, pour interpeller les gens. Une autre méthode doit être utilisée. Et là, Dieu va intervenir à travers Paul pour guérir un homme, un paralysé. Et cette guérison va être un déclencheur de plusieurs choses. Déclencheur de la prise de parole de Paul qui va pouvoir annoncer le message de l'évangile, mais aussi d'une très mauvaise interprétation de ces hommes et femmes qui habitaient Lystre. Car en voyant le miracle opéré par Paul, les habitants de Lystre prennent les apôtres pour des dieux. Ils prennent Paul pour Hermès, parce que c'est lui qui parle, et Barnabas pour Zeus, peut-être en raison de sa prestance. Et cette réaction peut sembler forcément étrange à nos yeux. Il ne viendrait peut-être pas une réaction comme ça à l'idée. Et même à cette époque-là, on peut se dire pourquoi. En fait, il faut savoir, et c'est sa petite histoire qui nous le dit, la grande histoire avec un grand H, il faut savoir qu'à cette époque-là, une tradition ou une histoire circulait, celle-ci, c'est que des dieux, Zeus et Hermès, ayant revêtu une apparence humaine, avaient visité Lystre en demandant l'hospitalité. Et tous les habitants avaient refusé, à l'exception d'humbles paysans nommés Philémon et Baucis. Et pour se venger, parce que personne n'avait voulu les accueillir hormis ces deux hommes, pour se venger, les dieux avaient noyé la ville sous le flot d'un déluge en épargnant les deux paysans dont ils avaient transformé la maison en temple. Et on comprend mieux pourquoi les prêtres et les fidèles ont vu en Paul et Barnabas ces dieux-là, Zeus et Hermès, et ont voulu leur rendre hommage, parce qu'on n'a pas lu ce texte-là, mais ils veulent leur faire un sacrifice pour eux. C'est une peur dans la conscience collective, on va dire. Mais en apprenant tout ce qui se tramait, Paul et Barnabas ont dû être surpris, consternés même, de voir des choses pareilles. Ce n'était pas le but de leur mission, pas du tout. Ils ont tout de suite mis les choses au clair, et Paul a donc pu annoncer la bonne nouvelle en évoquant la nature que ces hommes adoraient, mais qui était un simple témoignage de la réalité, de la puissance de Dieu. David Brown a écrit à propos de ces passages, « Paul a parlé aux Juifs dans la synagogue d'Antioche de Pisidie en s'appuyant sur une histoire commune et une connaissance partagée des Écritures avec des techniques typiques de l'enseignement rabbinique. Peu après, il s'adressait aux habitants de Lystre, c'est-à-dire des paysans qui ne connaissaient pas les saintes Écritures des Juifs. Il leur a parlé du Dieu créateur qui, du ciel, leur dispense les pluies et les saisons fertiles, en leur donnant la nourriture avec abondance et en remplissant leur cœur de joie. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que Paul s'est adapté à son public. Paul s'est adapté aux personnes qu'il avait en face de lui pour annoncer l'évangile. Et je crois que c'est aussi important aujourd'hui, de nos jours, de nous adapter aux personnes que nous avons en face de nous. Et peut-être que nous ne le faisons pas assez dans notre présentation de l'évangile, ou que nous n'y faisons pas assez attention en tout cas. Est-ce que nous savons faire l'effort, lorsque nous présentons la foi chrétienne, d'éviter par exemple le fameux patois de Canaan, de nous mettre en tout cas à niveau, au niveau de ceux à qui on parle? Parce que finalement aujourd'hui, on parle toujours de la France comme première fille de l'Église catholique, mais quand on constate, en tout cas moi mes connaissances, le peu de connaissances justement bibliques que les gens peuvent avoir, il faut vraiment se mettre à un niveau très bas pour leur parler de l'évangile. Par exemple aussi, il faut apprendre, je crois, à présenter l'évangile dans le contexte particulier de français. Pendant longtemps, une méthode a bien marché, d'après certains évangélistes. C'est celle des quatre lois spirituelles. Dieu nous aime, l'homme est pécheur, Jésus est la seule solution contre le péché, et donc nous devons nous tourner vers Jésus. C'est une méthode qui a beaucoup fonctionné. Mais aujourd'hui, il semblerait, d'après beaucoup, que cette méthode n'est plus à jour, n'est pas forcément la bonne à utiliser dans notre contexte, parce qu'on relativise la notion de péché, parce qu'on relativise la notion d'un besoin de sauveur. Et qu'aujourd'hui, c'est plus le témoignage personnel, plus d'autres moyens de communiquer l'évangile qui fonctionnent. Et là, il faut aussi faire attention de savoir se mettre au niveau et adapter le message à ceux à qui on parle, je pense. Par la suite, des hommes d'Antioche et d'Iconium sont arrivés à Lystre et ont retourné toute la population contre les deux apôtres. Paul et Barnabas étaient considérés comme des dieux. Ils sont devenus des parias. Ils étaient considérés comme des héros. Ils sont devenus des héros. Au début, les gens de Lystre voulaient les adorer et maintenant ils veulent les lapider. Et cela est encore une démonstration à quel point l'homme peut être changeant dans ses opinions, dans sa façon de voir les choses et les gens. Et cela avait déjà été le cas pour Jésus. Au début de la semaine sainte, de sa dernière semaine sur terre, Jésus est entré à Jérusalem. Tous criaient « Hosanna » au Fils de Dieu. Quelques jours après, les mêmes ont crié « Crucifie-le ». Un tel changement d'opinion en quelques jours. je crois que cela nous montre que nous ne devrions jamais vivre des louanges des hommes, qui sont tellement changeants dans les émotions, dans les opinions, mais plutôt vivre de l'approbation de Dieu, qui lui, et la parole est claire là-dessus, ne change jamais, et toujours, reste toujours le même hier, aujourd'hui, et pour tous les jours. Récemment, Tom qui fait du judo, a eu sa cérémonie de remise des ceintures pour la fin d'année, et donc il y avait des démonstrations de judo. Et à la fin, vers la fin, il y avait une démonstration de kata. Alors, kata, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une démonstration, c'est un judo mimé, si on peut dire. Un peu le combat parfait à faire. Et donc, c'était deux jeunes qui ont fait ce kata de judo. Et suite à leur kata, qui était vraiment joli, il faut l'avouer, il y a eu des applaudissements dans le public. Mais c'était intéressant de voir ces deux jeunes. Ils ne faisaient pas forcément très attention aux applaudissements du public. Non, ils faisaient attention à leur maître, qui était juste à côté, et quel regard ils portaient sur la démonstration qu'ils venaient de faire. Et peut-être que c'est une bonne image pour nous aujourd'hui. À quoi est-ce que nous faisons attention ? Aux applaudissements des hommes ou à l'approbation de notre maître dans nos vies, sur nos vies ? Paul, en tout cas, avait pris beaucoup de risques pour présenter l'évangile. Auparavant, il avait toujours réussi à s'échapper, expulsé d'Antioche, rapidement un départ d'Iconium pour éviter la lapidation. Mais là, ce coup-ci, il n'arrive pas à s'échapper à temps. Il va être lapidé, laissé pour mort, presque. Et quelque part, cette leçon nous montre que nos adversaires peuvent nous toucher, peuvent nous faire mal, que Satan peut nous toucher, que Satan peut nous faire mal. Mais encore une fois, on voit que Paul a été endurant, a poursuivi le chemin. Et Paul, en tout cas, n'a jamais caché la vérité sur la vie avec Dieu. Il n'a jamais annoncé que la vie avec Dieu est un chemin, une vie facile, tel que peut-être l'évangile de la prospérité dont on entend à droite, à gauche parler, peut essayer de l'annoncer. Non, la vie avec Dieu n'est pas forcément une vie simple, une vie facile. Même si les problèmes les plus cruciaux de notre vie sont réglés, dans notre vie chrétienne, le voile qui nous empêchait de connaître Jésus, Christ et Dieu est tombé, le poids de notre culpabilité est enlevé, nous découvrons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, même si toutes ces choses sont une bénédiction, bien entendu, d'autres difficultés peuvent survenir. Nous trouvons peut-être en porte-à-faux avec la société actuelle. Enfin, peut-être, je pourrais enlever le peut-être. Nous nous trouvons en porte-à-faux avec la société actuelle. Nous trouvons peut-être incompris de nos familles respectives, de certains de nos amis, par rapport à nos positions, par rapport à nos façons d'être, de vivre. Paul a toujours affirmé que tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. 2 Timothée 3, verset 12. La persécution, Paul n'a pas fait qu'en parler. Il l'a aussi subi, il l'a aussi vécu. La lapidation, mais bien d'autres choses aussi. Et quelque part, à nous aussi, je pense, d'être honnêtes dans notre témoignage auprès de ceux à qui nous annonçons l'évangile. Il ne faut pas leur parler d'un évangile qui va régler forcément tous leurs problèmes dans la minute de leur vie. Je pense qu'il y a un cheminement aussi là. Et peut-être que d'autres problèmes surgiront. La vie de chrétienne n'est pas forcément une vie simple, mais c'est la seule vie droite, la seule vie juste à vivre. Pour finir, le dernier passage, dans Actes 14, versets 21 à 23. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville, donc la ville de Derbe, et avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Paul et Barnabas fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, ils firent élire des responsables ou des anciens, et en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et plus loin, verset 27, à leur arrivée, donc à Antioche, ils réunirent les membres de l'église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils exposaient en particulier comment ils avaient ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Ils demeurèrent là assez longtemps parmi les disciples. À Antioche, donc. Tars, la patrie de Paul, n'était qu'à 250 km à l'est de Derbe. Mais les apôtres ne sont pas passés par Tars. Ils ont décidé de faire le chemin inverse, de rebrousser chemin et de revenir voir toutes les églises qu'ils avaient fondées. Sur leur retour, ils s'occupent surtout des chrétiens qu'ils veulent fortifier, qu'ils veulent encourager, organiser aussi. Ils établissent dans les anciens, dans chaque église qu'ils ont fondée, que ce soit Derbe, à Lystre, à Iconium ou Antioche. Paul et Barnabas ne sont pas contentés d'annoncer l'évangile. Ils ne sont pas contentés d'appeler à la bonne nouvelle. Il voulait plus. Il voulait faire des disciples. Il voulait que ces hommes et ces femmes qui se tournent vers Dieu n'en restent pas là, mais qu'ils aillent plus loin dans leur cheminement avec Dieu. La parole ne nous appelle pas simplement à parler de la bonne nouvelle. Bien sûr que nous devons évangéliser et parler de cette bonne nouvelle à des âmes perdues. Elle nous appelle aussi à faire des disciples. Et depuis le début des temps, c'est au sein même de l'Église locale que les disciples peuvent se faire. Parce que nous avons besoin des uns et des autres pour apprendre plus. Nous avons besoin des uns et des autres, encore une fois, pour se confronter l'un à l'autre, dans la soumission. C'est dans l'Église locale que les disciples se créent et se façonnent. Ce qu'il faut retenir de ce chemin de retour, c'est que lorsque Paul et Barnabas sont partis de ces contrées pour retourner à Antioche, les églises qui avaient été fondées ont tenu ferme, ont poursuivi leur service. Ces églises ont poursuivi dans la maturité avec Dieu. Et le fruit de ces églises a d'ailleurs été utile par la suite à Paul. Parce que lors de son deuxième voyage missionnaire, qu'on verra dimanche prochain avec Reynald, en passant par l'Istre, Paul va retrouver un de ses compagnons des voyages les plus intimes par la suite, Timothée. Timothée qui a sans doute été converti à ce moment-là et qui a grandi dans cette église de l'Istre. Donc ces églises étaient fortes et tenaient la route. La boucle est bouclée pour Paul et Barnabas, qui se retrouvent enfin à l'église d'Antioche qu'ils avaient envoyée. Et là, ils vont pouvoir faire leur rapport. On imagine bien qu'avec les moyens de communication de l'époque, l'église d'Antioche n'avait eu aucune nouvelle, sans doute, de leur part. Et là, Paul et Barnabas peuvent leur dire, leur affirmer que l'évangile a été ouvert pour les non-juifs, pour les païens. Ainsi donc se termine le premier voyage missionnaire qui dura entre 1 et 2 ans, au cours duquel Paul et Barnabas couvrirent plus de 1100 km sur deux chemins de terre et 800 km par la mer. Paul et Barnabas ont réussi à fonder des églises dans 6 à 7 villes de l'Empire. Il est écrit au verset 28 qu'ils restèrent là assez longtemps. 1 ou 2 ans passèrent à Antioche pour Paul et Barnabas avant qu'ils décident de repartir pour un second voyage missionnaire que nous verrons dimanche prochain. En conclusion, à travers ce premier voyage de Paul et Barnabas, on voit, ils ont accompli l'œuvre de Dieu. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais rester. Relisez ces passages à la maison et vous verrez que tout ce récit est jalonné par la mention de l'œuvre de Dieu. Au départ, l'Esprit demande à l'église d'Antioche de mettre à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés, acte 13. En cours de route, il est question d'une œuvre étonnante que Dieu est en train d'accomplir, acte 14, verset 41. Au retour, les deux envoyés rapportent tout ce que Dieu avait fait avec eux, l'œuvre de Dieu. Cette mission n'était pas l'œuvre de Paul, pas l'œuvre de Barnabas, ni l'œuvre même de l'église d'Antioche. C'était l'œuvre de Dieu et de personne d'autre. Il est bon de se rappeler aussi pour nous-mêmes aujourd'hui, au XXIe siècle, que l'œuvre que nous pouvons réaliser, le service que nous pouvons faire, n'est pas notre œuvre, n'est pas notre service d'abord. Bien sûr, nous sommes appelés à être coéquipiers de Dieu dans cette œuvre. Dieu nous suscite pour faire telle ou telle chose dans l'Église ou au loin. Mais cela reste l'œuvre de Dieu et pas notre œuvre. Et garder cela en mémoire, je pense, peut être une aide pour tenir ferme, pour éviter l'orgueil, la suffisance, ou croire que c'est nous qui faisons les choses. C'est l'œuvre de Dieu. Paul et Barnabas ont accompli l'œuvre de Dieu. À nous de l'accomplir aussi aujourd'hui encore. Je vous propose qu'on puisse prier ensemble. Oui Seigneur, tu nous connais tous les uns les autres, tu connais nos désirs, tu connais nos dons, tu connais nos capacités Seigneur, tu sais où nous en sommes avec toi et je te prie que dans chacune de nos vies Seigneur, tu réalises ton œuvre, que dans chacune de nos vies nous puissions être à ton écoute pour réaliser ton œuvre Seigneur, parce que ton œuvre est merveilleuse, parce que ton œuvre est magnifique. Et merci Seigneur parce que tu nous donnes des capacités aujourd'hui et je te prie pour chacun d'entre nous que tu puisses nous aider à mûrir, à grandir avec toi. Pour être plus équipé, pour être plus utile à ton œuvre, à toi. Que tu puisses encore bénir notre assemblée et nous donner une vision saine pour toi. Amen.